À Washington, Henri Francisque.
Les midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, plus d'une centaine d'étudiants ont cherché refuge dans le parking de l'ambassade américaine à Bujumbura pour échapper aux violences dans la capitale. Toute l'opposition burundaise a maintenant décidé de boycotter les prochaines élections. Et le deuxième vice-président du Burundi, Gervais Rufikiri, continue d'exhorter le président Pierre Nkurunziza à ne pas briguer un troisième mandat en qualifiant cette candidature de contraire à la Constitution. L'explication de M. Rufikiri, qui a cherché refuge en Belgique, au micro de Timothée Donanmaï.
Il suffit de lire l'article 96 et de combiner avec l'article 302. On se rend compte qu'effectivement, la Constitution limite le mandat à deux. Et c'est une interprétation qui a même été faite par des experts juristes constitutionnalistes, c'est-à-dire le professeur Philippe Rengers, mais aussi les procureurs généraux de la communauté africaine. Ils se sont exprimés là-dessus et parlent justement que la Constitution à elle seule suffit pour montrer que le nombre de mandats ne peut pas dépasser deux.
Qu'est-ce que votre départ changera au Burundi selon vous?
Bon, écoutez, je crois que c'est une contribution par rapport aux nombreux Burundais qui sont en train de se battre pour protéger la Constitution burundaise, pour le respect de la Constitution burundaise.
Au niveau du gouvernement, on a rejeté toute idée de reporter les législatives qui se tiennent dans quelques jours. Qu'est-ce que cela aura comme conséquence selon vous?
Bon, les conséquences sont très lourdes. D'abord, pour le moment, vous vous rendez compte avec le nombre de réfugiés dans les pays voisins, mais aussi plus loin dans d'autres pays. Et avec des décès dans ce camp d'accueil des réfugiés, puisque les conditions ne sont pas optimales pour la vie. Les morts qu'on a revues chaque jour au Burundi, soit à travers des manifestations, mais maintenant, ça a pris notre forme avec les grenades qui sont lancées, soit sur des ménages ou dans des attroupements de personnes. Ça, ce sont quelques signes de dégâts, sans oublier bien sûr l'isolement du Burundi par rapport à ses partenaires techniques et financiers. Et on peut se demander la question, comment sera l'économie burundaise sans apport extérieur lorsqu'on sait que l'économie burundaise est à plus de 52% dans des conditions normales des apports extérieurs et que les recettes collectées par l'Office burundais des recettes sont en train de chuter. On peut se demander quel est l'intérêt de chercher à tout prix d'être président lorsque tu n'auras pas de quoi nourrir ton peuple. Ça, c'est la première question que n'importe qui devait se poser. Donc, pour le moment, l'urgence, normalement, n'est pas de courir derrière son poste présidentiel, c'est plutôt de stabiliser davantage le pays et créer de bonnes conditions pour tenir des élections conformes à la démocratie, donc des élections libres, transparentes, inclusives et qui se passent dans un climat de paix et de sécurité pour tous.
Le deuxième vice-président du Burundi, Gervais Rufikiri, joint à Bruxelles par Timothée Donangmaï. Au Gabon, les enseignants du primaire et du secondaire sont en grève depuis mardi et leurs collègues de l'enseignement supérieur s'apprêtent à débrayer lundi prochain. Pourquoi cette vague de contestation? La réponse de Jean-Rémy Yama, président du syndicat national des enseignants et chercheurs gabonais.
À l'éducation nationale, une grève a été décrétée de 3 jours, soit 12 heures, pour 3 motifs principaux. Le premier, c'est la rétention des bons de caisse de certains enseignants en violation des textes. Le deuxième point, c'est le non-paiement de la prime d'incitation à la performance. Le troisième point, c'est le paiement de la prime incitative à la fonction d'enseignant, donc la PIF. Aux dernières nouvelles, les deux derniers éléments auraient été satisfaits, mais il reste l'épineux problème de la rétention, de la séquestration des bons de caisse de certains enseignants. Ils sont 200 exactement qui ont été ciblés. À cela également, on vient de constater qu'à la fin de ce mois, c'est-à-dire, vous savez, les salaires sont payés le 25 de chaque mois au Gabon, les mêmes enseignants ont vu leur salaire suspendu.
Jean-Rémy Yama, président du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, 19 ONG exhortent le président Alassane Ouattara à maintenir ouvertes les enquêtes relatives à la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. Les ONG souhaitent que les juges puissent aller jusqu'au bout de leurs investigations. Michel Joseph.
Dans une lettre ouverte adressée au président Ouattara, ces ONG, notamment la Fédération internationale des droits de l'homme et Human Rights Watch, expriment leur vive préoccupation quant aux informations concordantes, faisant état de la clôture imminente des enquêtes judiciaires en cours. Elles disent redouter une clôture prématurée de ces instructions, qui aurait pour conséquence certains des procès mal préparés et des accusations insuffisamment étayées ne permettraient pas de rendre justice aux victimes. D'après un communiqué de presse des ONG, le gouvernement ivoirien a demandé à la cellule spéciale chargée des enquêtes de terminer rapidement son travail d'ici le 30 juin 2015. Pour ces organisations, il ne faudrait pas que des considérations politiques, notamment électorales, dictent la cadence judiciaire au détriment des victimes qui ne pourraient se satisfaire de procès précipités. Une allusion à la présidentielle prévue en octobre. La crise ivoirienne de 2010 à 2011 a fait plus de 3000 morts. Parmi les personnes jugées en rapport avec ces violences, l'ancienne première dame Simone Gbagbo, qui a été condamnée à 20 ans de prison en mars.
Au Bénin, les électeurs se rendent aux urnes dimanche pour choisir leurs représentants dans les conseils communaux et locaux. Des précisions avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
La bataille pour les municipales, communales et locales béninoises égrène ses dernières heures. Et les différents partis politiques et alliances de partis politiques en compétition dans chacune des 77 communes que compte le Bénin usent d'arguments pour convaincre les électeurs à leur accorder dimanche prochain leur suffrage. La bataille se promet d'être rude dimanche prochain à Cotonou et dans les autres communes du Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Au Niger, sécheresse et insécurité alimentaire sont intimement liées, d'où la décision de la jeune franco-américaine Ariane Cotley de consacrer toutes ses énergies à apporter de l'eau aux populations qui en manquent le plus dans ce pays aride du Sahel, à travers son ONG Aman Iman, qui signifie « l'eau, c'est la vie » en tamashek. De passage à Washington pour promouvoir son ONG, Ariane Cotley a parlé de l'importance de l'eau dans les régions qui souffrent particulièrement du réchauffement climatique. Au micro de Claire Morin-Gibault.
On a apporté de l'eau à peu près à 100 000 personnes, mais il y a à peu près 500 000 personnes dans cette zone. Donc on veut vraiment continuer à creuser des forages, amener tous les projets qui viennent autour des forages et continuer à amener un dialogue de paix dans cette zone jusqu'à ce que, je sais beaucoup dire, mais est-ce que toute la zone ait vraiment un accès à l'eau. Et on veut travailler dans le temps, parce que c'est pas juste en amenant un forage, que le forage va durer dans le temps si on continue pas à faire les activités. Donc peut-être continuer pendant 20 ans, je ne sais pas. Mais on espère aussi travailler avec d'autres populations d'Afrique qui sont aussi très vulnérables.
On parle beaucoup de l'influence du climat aujourd'hui, évidemment du changement climatique, du réchauffement de la planète. Est-ce que vous avez constaté une aggravation de la situation pour ces populations au cœur d'une zone déjà très aride ?
Tout à fait. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas rentrer dans le débat. Est-ce que c'est le changement climatique global. Mais ce qu'on va dire, c'est que si il y a 15 ans, ces populations vivaient de mares qui se formaient à partir de pluies qui pleuvaient 5 mois de l'année, en 2005, il pleuvait à peu près 3 mois de l'année, et là, il ne pleut même pas un mois de l'année, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que ces personnes n'ont plus d'eau. C'était la meilleure zone de pâturage dans tout l'Afrique de l'Ouest, cette zone. Une famille pouvait avoir 300 têtes de bétail, et maintenant, ils n'ont plus rien. Et non seulement ils n'ont plus rien, mais eux-mêmes ils n'ont plus rien. Il n'y a pas d'eau non seulement à boire, il n'y a pas d'eau pour faire de l'agriculture, donc pour remplacer le bétail. Donc effectivement, je pense que ça doit être une des populations au monde qui doit souffrir le plus de changements climatiques.
Ariane Cotley, directrice de l'ONG Aman Iman au Niger. Le département d'État américain a publié hier son rapport 2014 sur les droits de l'homme. Il en ressort que c'était une année difficile pour beaucoup de gens dans le monde. Idrissa Seydoudia.
Le secrétaire d'État américain John Kerry attribue cette situation à des groupes terroristes qui exploitent les divisions et le discours religieux pour promouvoir leur idéologie totalitaire ou à des gouvernements qui, comme la Syrie, disent souvent combattre le terrorisme. Dans certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient, les terroristes n'ont non seulement aucune considération pour les droits de l'homme, mais ils ont eu zéro considération pour la vie humaine, a encore dit M. Kerry. Malgré tout, les aspirations à la liberté politique et à une gouvernance honnête et respectueuse des droits restent fortes. À travers le monde, beaucoup de peuples ont pu choisir, plus qu'auparavant, leurs dirigeants dans des élections où il y a eu réelle concurrence.
Et pour terminer, le président Barack Obama prononce aujourd'hui à Charleston, en Caroline du Sud, l'éloge funèbre du pasteur africain-américain Clementa Pinckney, tué dans son église avec 8 paroissiens noirs par un jeune suprémaciste blanc la semaine dernière. Madame Obama ainsi que le vice-président Joe Biden et son épouse assisteront également aux funérailles du pasteur Pinckney. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.